Bienvenue sur Point de sauvegarde, le podcast de jeux vidéo de la médiathèque Boris Vian de Chevilly-Larue, présenté par Blaise, Franck et Marie. Chaque mois, ou plus si affinité, nous vous partageons nos expériences sur un jeu vidéo présent à la médiathèque. Bonne écoute et n'oubliez pas de sauvegarder.
Bonjour à tous et à toutes, bonjour Franck.
Salut!
Ça fait des mois qu'on n'a pas enregistré, toi et moi.
Long time no see!
Oh, on s'est revus quand même depuis.
Oui, mais je parlais aux auditeurs en fait.
Alors, c'est
no,
vrai.
Long time no hear, no... je ne sais pas comment on dit en anglais.
Mais je ne bon, sais pas, mais ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Si, normalement, ils t'ont entendu dans l'épisode Elden Ring avec Blaise.
Ah oui, avec Blaise. Oui, effectivement.
Parce c'est que vrai, vous avez vrai. Enfin...
Mais avec toi? Non,
avec
ça
moi,
fait super longtemps.
Ouais, je ne sais même plus quel est le dernier jeu qu'on
ben,
a.
Je ne sais pas. Ça fait vraiment trop longtemps, Marie, en fait.
Mm.
Tu m'as manqué.
Je ne le dirai pas, moi.
Vous m'avez manqué.
Voilà. Nous sommes ici pour le 17e épisode de Point de sauvegarde.
17 ?
Ouais, ça fait 17 épisodes déjà.
Mince.
Ouais, wow. Ouais. Wow, et wow. Comme je l'avais dit lors d'un épisode avec Blaise où nous présentions chacun un jeu, nous avons 4 jeux en attente pour les faire à 3. Mais comme vous avez pu vous en douter, en entendant uniquement la voix de Franck et la mienne, après des mois sans voir Franck, c'est à présent Blaise que nous n'allons pas voir pendant un petit moment.
Ouais. Mm.
Ce qui fait que nous ne nous retrouvons pas à la force des choses, encore une fois, à enregistrer à 2 au lieu de 3. Et encore une fois, comme mes collègues refusent de jouer au même jeu que moi, et inversement.
Alors là, moi, je m'inscris en faux, en fait. Moi, j'ai envie de jouer au même jeu que toi, en fait. Et j'ai envie que tu joues au même jeu que nous.
Jamais je toucherai au Soulzang. Jamais.
Ça va le faire.
Toujours est-il qu'une fois de plus, nous n'avons pas de jeu en commun.
Mm.
Ce qui fait que nous allons reprendre la formule inaugurée par Blaise et moi au cours de la fin d'année scolaire, à savoir se présenter chacun un jeu.
Yes.
L'un après l'autre.
Mm.
Je crois que pour une fois, nous avons tous les deux des jeux indépendants.
Ouais, tout à fait. Bon, en fait... Enfin, moi, je vais commencer comme ça, mais en fait, en vérité, on joue beaucoup, on joue très souvent à des jeux indépendants. Mais c'est vrai que les jeux auxquels on joue en commun, en fait, sont plus des jeux de studio, finalement.
C'est vrai.
Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment plein de super sympas, et là, on va en découvrir deux.
Tout
c'est
à
cool.
fait. Et puis aussi, on essaie de présenter quand même des jeux qui sont en physique,
oui.
pour qu'ils puissent être empruntés
oui.
à la médiathèque.
Ouais.
Et c'est vrai que les jeux indépendants, c'est assez rare qu'ils sortent immédiatement en physique.
Ouais, c'est vrai qu'on les a souvent dématérialisés. Et nous, dès qu'on a l'occasion d'avoir des jeux en physique indépendants, de studios indépendants, bah on les prend parce que ça fait partie un peu de notre ADN et des choix qu'on fait, essayer de mettre en avant la production indépendante.
Et avant de présenter le premier jeu, je vais quand même préciser un truc. Je sors de maladie et Franck commence à être malade.
Ah ouais, non.
Il est fort probable qu'il y ait quelques raclements de gorge intempestifs
que
j'essaierai de faire disparaître au montage. Malheureusement, le montage a ses limites et mes capacités aussi. Donc nous allons faire de notre mieux pour retenir nos toux et nos éternuements tout au long de cet enregistrement.
Ouais, on va peut-être perdre du souffle à essayer de dire nos phrases en entier, mais je sais que vous êtes avec nous. Donc
on compte sur vous pour ne pas trop nous en vouloir.
Merci beaucoup. Donc bon, c'est parti pour ce nouvel épisode de Point de sauvegarde. Et Marie, je sais que tu vas nous parler d'un jeu, donc j'ai hâte de découvrir ce jeu en question. Je sais, on vient de le dire, hein, que c'était un jeu indépendant, mais
oui.
Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il
je
te plaît?
Je peux vous en dire plus. Déjà, je suis désolée, je retourne sur Sony. J'ai essayé, tant que bien que mal, de rester sur Nintendo,
ouais.
de défendre Nintendo. Je continue de défendre Nintendo, mais là, pour une fois, je vais vous parler d'un jeu Sony et d'un des premiers jeux qui est sorti sur la PS5, à vrai dire. Je crois d'ailleurs que moi, c'est le premier jeu auquel j'ai joué sur la PS5 quand on l'a acheté ici. C'est c'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'aurai quelques souvenirs un peu flous du jeu, c'est The Passless, qui est sorti en 2020, novembre 2020 si je me rappelle bien, qui est sorti en plus initialement sur Windows, PS4, PS5 et sur iOS. Okay. Et en réalité, moi, je l'ai découvert via l'Apple Arcade.
Okay.
Parce que j'avais l'Apple Arcade à ce moment-là. Et donc, j'avais l'Apple Arcade à ce moment-là. Du coup, je l'avais téléchargé parce qu'il me faisait un peu de l'œil. J'avais pas fait plus que la scène d'intro, je crois. Peut-être à tort. Même si j'ai rien contre les jeux tablettes, ça m'arrive de jouer sur des jeux de tablette, enfin des jeux mobiles sans souci. J'ai trouvé que les mécaniques du jeu allaient peut-être pas forcément...
Avec le support.
Ouais, avec le support. Et que ça allait certainement gâcher mon expérience de jeu. Donc je l'ai un peu laissé de côté. Il s'avère que j'avais pas fait le lien cause à effet, mais j'ai vu qu'ensuite il sortait sur Sony et hop... Il se trouve qu'on l'a acheté ici. Donc, tant mieux, parce que j'ai quand même pu le découvrir, et je pense avec une expérience de jeu plus sympathique pour moi.
Ouais, ok.
Avant de parler du jeu en lui-même, un petit tour sur le studio de développement, et exceptionnellement, je vais aussi parler de l'éditeur, et je pense que, Franck, tu vas vite comprendre pourquoi je vais parler des deux. Le studio de développement, c'est Giant Squid.
Ok.
C'est eux qui ont commencé en 2012-2013, je crois, et c'est eux qui ont sorti Abzu.
Ouais.
Le jeu d'exploration marine, et qui en plus rappelle deux autres jeux, à savoir Flower et Journey. Et il les rappelle pour une raison assez, assez simple, c'est que le directeur artistique de Flower et Journey, c'est lui qui a fondé le Giant studio Squid. Giant Squid.
Ok.
Matt Nava, je crois. Ouais, Matt Nava.
Ouais. Et du coup, ouais, Journey, c'est Genova Chen qui a créé ces jeux, la Flower et Journey, et c'est des jeux qui m'avaient vachement marqué parce qu'ils avaient une esthétique vraiment particulière.
Ouais.
Okay.
Et esthétique qu'on retrouve dans Abzu, totalement. Ouais. Alors, étonnamment, j'ai pas accroché à Abzu, mais non, je comprends avec un autre jeu, je l'ai pas fait. J'ai fait, en revanche, Flower et Journey qui, oui, ont une esthétique incroyable. Ouais. Et une proposition vidéoludique qui, enfin, moi en tout cas, j'en avais jamais vraiment expérimenté comme ça. Très onirique, pas de dialogue.
Peu. Ouais, pas du dialogue, tout, même pas du tout, pas du tout en fait. Mais enfin, il y a des relations entre dans Journey, il y a des relations à autrui. Donc effectivement, il n'y a pas de dialogue, mais les gens se rencontrent en fait, et c'est important en plus dans le jeu.
C'est super important, mais moi ce qui m'a toujours plus marqué, c'est quand même l'ambiance générale du jeu, ce côté étendu vide, très solitaire, etc. Et puis la beauté des jeux, ces grands paysages, l'esthétique du personnage, notamment dans Journey, qui n'a pas vraiment de main, qui est très...
Longiligne avec une sorte de cape
androgyne aussi,
fluide, très fluide,
cape qui lui sert d'ailleurs, qui lui octroie quelques pouvoirs, enfin voilà, donc vraiment des jeux qui pour moi sont géniaux et sont à découvrir.
Et on retrouve ça dans Passless?
On le retrouve un petit peu, même si c'est différent. Mais t'inquiète, je vais revenir dessus. Et je voulais parler rapidement de l'éditeur également, qui est Annapurna.
Ok.
Donc éditeur de What Remains of Edith Finch, The Unfinished Swan, Florence, Outer Wilds, et encore plus connu dernièrement Stray, le jeu du chat, qui fait partie des jeux que nous devons parler, petit spoiler pour le futur.
Oui.
Donc un jeu qui partait quand même avec un bagage plutôt positif. J'avais pas forcément en tête ces deux composantes là au moment où je l'ai lancé, mais c'est vrai que Annapurna Digital d'un côté et Giant Squid de l'autre, le jeu, on savait qu'il allait avoir de bonnes bases.
Ouais.
Ça allait être un bon jeu. Tu me demandais du coup si on retrouvait un peu cette esthétique-là dans The Passless. Oui et non. Alors oui, on la retrouve. Il y a ce côté très fluide dans le jeu. Il y a ces grands paysages oniriques plus remplis, beaucoup plus remplis que dans Journée, qui était quand même... on est dans le désert. Je pense qu'on ne spoil personne en disant ça, mais on est dans le désert. Donc c'est des dunes, il y a quelques constructions souvent abandonnées. Mais on n'est pas sur un univers entièrement construit et très riche. Ce qui n'est pas le cas pour The Passless, où on commence le jeu, on échoue sur une île, on incarne la chasseuse, Et on voit que l'île, elle est remplie. Il y a des vraies constructions qui ne sont pas forcément abandonnées, qui sont encore en bon état. Donc, oui, on retrouve l'esthétique, mais je dirais une esthétique plus poussée que ce qu'on avait dans Journée ou dans Flower, où pareil, on est des pétales
de fleurs
qui voguent au gré du vent. Donc, on est sur une esthétique plus poussée. Tant mieux, parce que le jeu est plus poussé aussi, je pense, j'en suis même sûre, dans le gameplay et dans les mécaniques. Déjà, on est sur un jeu d'action-aventure pur et dur. La chasseuse, elle s'appelle la chasseuse, c'est pas juste pour rien, elle a un arc. J'adore tirer à l'arc, donc j'étais trop contente que mon premier jeu sur PS5 ce soit un jeu avec une mécanique de tir à l'arc. Et elle arrive, notre chasseuse, sur cette île, donc, où on a une malédiction, pardon, qui s'étend peu à peu sur toute l'île et qui, je trouve plus le terme, qui s'étend, pardon, enfin qui corrompt, voilà, qui corrompt les créatures divines qui protègent l'île.
Ok.
Et la chasseuse, donc, comme j'ai dit, elle tire à l'arc et en plus de ça, elle va être aidée de Mère Aigle, qui est un aigle. Qui va l'aider dans certaines parties du jeu, et qui est également la mère des créatures qui ont été transformées,
une divinité en fait.
Ouais, exactement, c'est une divinité qui ont été transformées et corrompues par une entité qu'on appellera le déicide.
Ok.
Wow. Ouais, déicide, fratricide, patricide, voilà, le tueur de dieu, quoi. L'univers, il est particulièrement mystérieux dans mon souvenir, même si on en découvre petit à petit en se promenant sur l'île, avec des sanctuaires disponibles, des tombes ou des esprits qu'on peut croiser qui vont donner des pistes sur ce qu'était cette île, sur les créatures aussi, donc qui sont actuellement corrompues et qu'on doit sauver, pour en savoir plus en fait sur ces entités et sur comment ils sont devenus des dieux et comment est-ce qu'ils étaient perçus par les personnes qui les vénéraient. Et il y a une forte mécanique d'énigmes à résoudre dans ce jeu. Parce que donc pour purifier les créatures corrompues, il faut arriver jusqu'aux zones où elles sont. C'est des mini-combats de boss en réalité, tout du long, à chaque niveau, c'est résoudre des énigmes. Des types de sanctuaires qui se basent énormément sur l'environnement autour de nous. Donc, il faut vraiment bien l'observer, s'assurer qu'on a encore suffisamment d'aide dans l'univers, dans le lieu du puzzle, pour pouvoir débloquer les bons mécanismes pour ouvrir le sanctuaire et donc récupérer des collectables qui vont nous permettre ensuite d'ouvrir la porte du sanctuaire où se trouve la créature corrompue. Et ça se fait donc avec la chasseuse qui va notamment tirer à l'arc sur les mécaniques à débloquer, mais également avec Mère Aigle qui peut porter des poids ou autre. Et puis ça va parfois être difficile d'arriver à ces zones, à ces sanctuaires à débloquer, parce que régulièrement il y a des vagues de corruption qui vont passer sur l'île, et donc il faut se protéger, il faut retrouver des vagues de corruption, en fait c'est les créatures corrompues qui passent, et donc il faut s'en cacher au moment où elles arrivent, cacher Mère Aigle aussi, rester proche de l'aigle pour s'assurer que
il soit pas corrompu. Cool.
Donc c'était assez intéressant. Les énigmes, dans mon souvenir, n'étaient pas extrêmement difficiles. Par contre, elles demandaient quand même ce côté vraiment réflexion de prendre en compte l'univers global autour de nous pour se lancer, pour réussir à la résoudre, tout simplement. Et les combats de boss, eux, par contre, avaient vraiment ce côté action-aventure beaucoup plus poussé et beaucoup plus nerveux aussi. Donc, parce que c'est vrai qu'une énigme, généralement... tu peux parfois avoir des timers, mais c'est pas forcément là où tu as la pression et la goutte de transpiration qui arrive le long du front en disant « Oh mon Dieu, je vais pas y arriver !» Là, pour le coup, les boss ont été sur un truc beaucoup plus nerveux, beaucoup plus punchy. C'était des courses-poursuites quasiment. Il y avait une partie course-poursuite où il fallait leur tirer dessus un certain nombre de fois sur des cibles précises. Et ensuite, t'avais un combat en arène. Je crois que c'était généralement deux ou trois fois la même mécanique à faire. Et assez intéressant, je ne suis pas forcément une grande fana des combats de boss, mais Je me suis pas sentie particulièrement en difficulté, ça m'a pas spécialement saoulée. Donc j'ai trouvé que ça s'intégrait bien, pardon, dans l'univers du jeu, que ça faisait pas une grosse coupure. Enfin, j'ai certainement été surprise lors du premier boss, mais pas à me dire oh non, ça me saoule. Au contraire, j'ai trouvé ça cool. Et puis ouais, non, c'était bien équilibré. Et outre ces mécaniques-là, donc d'énigmes et de combat de boss, moi ce qui m'avait vachement plu, assez vite en fait dans le jeu, même vraiment, je pense les 5-10 premières minutes, c'était la fluidité des mouvements
Ouais,
du
c'est ce
personnage.
que j'allais te demander en fait. Ouais.
Ouais, le personnage était ultra fluide, elle avait une jauge d'endurance que tu pouvais remplir en tirant sur des cibles dispersées un peu partout dans l'univers.
Ok.
Et c'était... Enfin moi vraiment, ça m'avait rendu trop contente et j'étais trop ouf parce que du coup, une fois que la jauge d'endurance elle est remplie, elle peut glisser, donc
Ouais.
ça la fait avancer vachement vite. Et en même temps qu'elle glisse, elle peut continuer de tirer à l'arc. Donc du coup, de garder sa jauge d'endurance complète et
Ouais.
donc de glisser comme ça en continu. Et une fois que t'as compris le mécanisme, une fois que tu t'es rodé, franchement, ça, l'expérience de jeu, moi je l'avais trouvé trop ouf.
Ah, c'est fluide en fait.
Ouais, c'était ultra fluide.
Ça fait penser un peu à un Legolas en fait que tu diriges et qui
Ouais,
tire à
totalement.
l'arc et tout. Ah non, c'est stylé. Moi j'avais vu des images un peu du personnage et effectivement de ce concept de glisse là qui avait l'air
Ouais.
hyper cool en fait.
Ouais, et vraiment, c'est... En vrai, j'ai même le souvenir de m'être dit... Ah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas eu une mécanique comme ça qui m'a fait plaisir dans un jeu vidéo. Tu vois, à ce moment-là, 2020, début de la PS5, on se rappelle du lancement, en plus, un peu...
Chaotique.
Trouver une PS5, c'était
Ouais.
complexe. D'ailleurs, nous, on l'a eu en 2021.
Non, pour moi, on a eu fin
Fin
2020 pour
2020,
moi,
ok.
ouais, fin
Non, mauvais
2020.
souvenir. Mais donc, ouais, ce côté-là, cette mécanique-là, vraiment, enfin, ce gameplay-là qui m'avait grave plu. Et puis, en plus de ça, l'univers en lui-même, que j'avais trouvé bien construit. On est très seul, hein, là-dessus, on revient sur. Un peu sur Journée ou Abzu ou Flower, on est très seul à part Mère Aigle. Mais même en étant seul, même en étant sur cette île où il n'y a pas de carte, on n'a pas de carte hein, dans l'univers,
Ouais.
je me suis pas sentie spécialement perdue. Bon, cela dit, une île, c'est toujours pareil, tu peux rarement te perdre. Enfin, il y a la mer au bout d'un moment, donc tu ne peux pas en sortir. Et il y avait ce côté. Un peu à la Shadow of the Colossus, où je vois ton sourire,
Ah ouais,
Franck.
non, parce que moi, c'était une de mes citations, en fait, dans ma tête, là, j'allais te demander, tu vois, aussi.
Bah, t'avais ce côté-là, du coup, pas de carte, un seul compagnon animal, avec qui t'interagis réellement, en fait, parce qu'il y en a d'autres, mais avec lesquels tu vas pas forcément interagir. Des énigmes slash sanctuaires à trouver et à résoudre avant de pouvoir rentrer. Au moment dans l'arène du boss final. Et puis une mécanique où. Alors je crois que c'était avec le masque des esprits de la chasseuse, parce que donc elle est couverte, hein, on voit qu'elle a pas de. Enfin vraiment, c'est une élue en fait, la chasseuse. Hein, elle est couverte et donc avec son masque, il me semble que c'est lui qui peut la mettre sur la voie des sanctuaires à trouver si jamais on est perdu. Un peu à l'image de l'épée dans
Oui,
Shadow of the Colossus qui te
avec les raies de
permettait de
lumière, ouais.
trouver le colosse suivant à abattre. Donc
Ok.
un jeu vraiment cool, moi dans mon souvenir, où je m'étais dit, franchement, si j'ai une PS5, nous sommes 3 ans après la sortie de PS5, j'en ai toujours pas, mais je serais prête à le reprendre et à le refaire, le jeu. Il a une durée de vie assez courte, hein, moi dans mon souvenir, c'est peut-être, si tu le fais à 100%, peut-être une dizaine d'heures,
Ok,
10-12 heures.
ok.
Donc en ligne droite, j'imagine 4-5, bon moi de toute façon, je suis toujours entre le 100% et la ligne droite, donc voilà. Et une bande son qui était vraiment cool. J'avais un doute, je l'ai réécouté un petit peu quand hier je réfléchissais au jeu que je voulais éventuellement présenter. Et vraiment cool. Et donc ce matin j'ai pensé à vérifier et c'était Austin Wintory qui la faisait. Donc le
Ok.
nom me disait strictement rien, c'est normal parce que je retiens pas les noms. Par contre c'est la personne qui a aussi composé pour Abzu et Journée.
Ok. Donc on est vraiment dans la ligne
Ouais,
directe en fait de ces jeux-là, quoi.
exactement.
Ok, cool.
Voilà. Donc un jeu que nous, on a sur PS5 à la médiathèque.
Ouais. Ben, j'ai bien envie, en plus, moi je l'avais vu. Alors j'ai peut-être été comme toi, j'ai dû soit tester une démo parce qu'on m'appelle Demo Boy dans le coin
C'est pas pour rien en même temps.
et
Non,
vu
tu m'as
que.
vraiment dit tout à l'heure, on est allé faire des achats hier, et t'as regardé la liste des jeux, et t'as dit, ah ouais, Final Fantasy XVI, j'ai fait la démo, de toute façon, ça m'a pas plu. Voilà.
Ouais, mais
Donc,
c'est
encore
vrai.
une fois, la démo.
C'est vrai, mais ça sert à ça, ça sert à tester. Ouais, il m'avait pas plus interpellé que ça. Par contre, j'avais été peut-être un peu, enfin, j'avais été marqué par les images que j'avais vues justement de fluidité. Je me demandais comment c'était. Donc, bah, je pense que je m'y attellerai. J'ai du temps maintenant, donc je pense que je m'y attellerai.
T'as
Voilà,
du
j'ai
temps, mais
du
je...
et la PS5. Donc.
Ouais, voilà, c'est ça, surtout. T'as du temps et la PS5. Peut-être moi, je l'ai pas, la PS5, là, vas-y. Franck, c'est maintenant à toi de me présenter un jeu, même si je crois que je le connais. Un jeu indé également, ouais, deux jeux indés.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tu le connais? Comment ça, tu le connais?
Je le
Tu y as
connais, mais j'y
joué?
ai pas joué.
Ah, ok, d'accord. Ah, moi qui voulais te faire une surprise en plus.
Oh là là.
Alors, bon, je me rends compte quand même que on a choisi un peu le même type de jeu. Moi, je vais vous parler de Death Door. Donc, qui est un jeu du studio Acid Nerve, qui est un studio britannique composé de deux personnes. Juste deux personnes en fait. Sur ce jeu, ils ont été aidés par quatre ou cinq autres personnes
D'accord.
supplémentaires. Le noyau du studio, c'est deux personnes. Death Door, c'est un jeu d'action-aventure, un peu à la Zelda en fait.
OK.
Qui a une petite particularité, c'est que c'est un jeu qui est vu du dessus, un peu en 3D isométrique. Donc la 3D isométrique, c'est qu'on a en fait une vision de trois quarts vu du dessus de l'écran en fait de notre niveau. Donc en général, quand on se déplace, on utilise la croix directionnelle, les diagonales des croix directionnelles pour bouger dans les écrans, quoi. Dans les différents écrans de jeu. C'est un jeu que j'ai vraiment moi kiffé et qui est passé sous mes radars en fait, parce que finalement j'ai dû être séduit à un moment ou à un autre parce que j'ai dû voir un trailer. En plus, je crois qu'au départ, ce jeu était une exclusivité, alors peut-être
Il me
Xbox.
semble, ouais, que
Ouais,
c'était
ça a dû être une exclusivité
c'est
Xbox en fait.
rare, mais ils en ont parfois.
Ouais, sachant que, bon, non, je vais m'abstenir, non, je vais m'abstenir par
T'allais
la
tellement
Xbox.
baver sur la
Ah,
Xbox,
non,
ça
non, mais
se voit, je
vraiment,
le vois dans ton
non,
regard.
mais s'il vous plaît, quoi, bref. Ouais, une exclusivité Xbox, donc c'était bien dommage, parce que c'est vrai que moi, je suis plutôt team Nintendo Sony, mais quand j'ai eu la possibilité de mettre la main dessus, en fait, finalement, j'ai été séduit.
Et
J'ai été
dis-nous
séduit.
comment t'as mis la main dessus.
Bah en fait, on l'a acheté chez nous en fait à la médiathèque et en version dématérialisée. À la faveur d'un prêt de Xbox à domicile, et ben j'ai commencé à jouer un petit peu à jeu et puis je l'ai laissé tomber.
Et donc voilà, ceci est la fin de l'épisode du jour. Merci de nous avoir écoutés.
Mais en fait, je l'avais trouvé sympa, mais je l'ai laissé tomber. Puis après, on a acheté ce jeu en version physique sur Switch. Je l'ai pas retesté sur Switch, mais par contre, j'ai eu l'occasion d'y jouer sur mon Steam Deck. Steam Deck, une machine qu'on a aussi à la médiathèque.
Et avec laquelle vous pouvez jouer sur place.
Exactement. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Steam Deck, déjà, c'est bien dommage. Je me propose de vous expliquer ça assez rapidement. C'est une console, en fait, c'est un PC portable sous la forme d'une console faite par la plateforme Steam, qui est en fait le distributeur numéro un de jeux PC sur ordinateur, quoi, sur PC, quoi, en fait.
Moi, j'allais la décrire comme la décrivent la plupart du temps les gamins qui connaissent pas la console. C'est, oh, c'est plus gros que la Switch.
C'est une grosse Switch, en fait. Mais grosse Switch, un peu plus puissante qu'une Switch.
Plus puissante.
Ouais. Et qui peut faire jouer des, qui peut jouer, enfin, qui peut faire tourner des jeux PC, en fait. Voilà. Alors pas tous, parce qu'il y en a qui demandent beaucoup de, mais des jeux PC comme Death's Door. Oui, c'est possible, parce que Death's Door, donc c'est un petit jeu qui est graphiquement très sympathique et pas, qui pousse pas la machine dans ses retranchements, et qui surtout a d'énormes qualités. Alors, la première qualité, c'est son histoire. Parce qu'on incarne en fait un petit personnage qui est un corbeau. Et donc ça débute, on sort d'un bus, l'image est en noir et blanc, et on se retrouve dans une sorte de structure un peu administrative, et donc tout est gris, hein, et on a ce petit corbeau là qui se déplace avec un parapluie, je crois, qui doit récupérer, son métier c'est récupérer des âmes, donc c'est un corbeau de la mort. Et il doit récupérer des âmes d'êtres vivants, en fait.
J'aurais trop aimé... Pardon, je te coupe, mais je crois que je sais que tu les as pas écoutés, nos épisodes, quand on n'était pas là. Ouais. Mais du coup, moi, j'ai parlé de Spiritfarer.
Ah, et
qui est aussi une passeuse d'âmes. Okay. Au final, ça aurait été très, très drôle que, tu vois, on ait un épisode de miroir Spiritfarer, Death Door.
Ça aurait été tellement gay.
Ouais, c'est... Parlons un peu de mort. Mais la mort, c'est pas que quelque chose de triste.
Non, moi, c'est clair, ça peut être une délivrance, ça peut être une... Ouais, effectivement, c'est une célébration aussi.
Enfin, pardon, du coup, je t'ai coupé. Donc oui, tu disais, il doit récupérer les âmes.
Et en fait, oui, il pointe, en fait, à son travail. Son travail, c'est de récupérer des âmes. Et donc, on est toujours... donc, vous imaginez une image noir et blanc sur des... Enfin, noir et blanc, du gris plutôt, des gris. Et puis, on passe une porte... Une des portes de la mort, du titre. Et là, la couleur arrive. Et on se retrouve dans un monde chatoyant, avec plein de couleurs qui pètent. Alors, on est sur des tons rouges, avec des petits êtres un peu étranges, pas forcément agressifs, mais comme on est dans un jeu vidéo, on se dit qu'on va les dégommer. On les dégomme et on apprend. En fait, ce premier niveau nous sert de tutoriel et on apprend les mécaniques de jeu. Et les mécaniques de jeu, comme dans un Zelda, c'est l'épée, le mouvement d'épée, circulaire. On a un petit plus, c'est de pouvoir faire des esquives, en fait, des roulades. Et là, on est un peu plus dans un jeu dont on n'avait pas parlé depuis longtemps, à savoir Dark Souls.
Je ne répondrai rien à cette provocation. Je refuse de rentrer dans leur jeu. De toute façon, je m'en fiche, ils ont parlé de tous les Souls-like, donc maintenant je suis tranquille.
Et voilà, et puis on est dans ces niveaux, donc c'est pas un open world, donc le chemin est plutôt guidé. Et on doit collecter des âmes, le plus d'âmes possible. Et là, donc sur cette première mission, en fait, on doit collecter l'âme d'un boss. Et une fois qu'on a battu ce boss, en jouant donc entre les coups qu'on envoie, les flèches qu'on peut envoyer, puisque c'est un personnage avec un arc.
Trop bien.
Et qui peut donc tirer à distance ou frapper de près avec l'épée, et donc esquiver. Donc une fois qu'on a battu le premier boss, eh ben, on a une âme, une grosse âme, qui s'échappe du corps du boss et on se la fait subtiliser. Et là, comment ça, tu me voles mes âmes, toi? Mais t'es qui? Et donc, on part à la poursuite de la personne qui nous a volé les âmes et on se rend compte qu'on se retrouve dans une sorte de hub central, un niveau central dont il va falloir débloquer les différents passages. Et ces passages... En fait, correspondent à des niveaux.
Ok.
Et à chaque niveau, il y a un boss. Chaque niveau a une, comment ça s'appelle, une patte particulière.
Mm-hmm.
Après, on est dans des graphismes qui sont très ronds, la modélisation 3D très ronde, très kawaii, assez mignonne, même plutôt drôle et tout. Mais le ton... On sent qu'il y a quelque chose de... Il y a un ton un peu sous-jacent qui est quand même grave. Il y a de la gravité, en fait. C'est ce qui m'a plu, en fait, tout de suite. Il y a un équilibre, en fait, entre des parties un peu humoristiques et un truc un peu plus sombre, plus lourd. Et donc on doit affronter, on se rend compte donc que la personne qui nous a volé notre âme en fait est aussi un corbeau, a aussi exercé a priori notre métier, et il est en train de nous expliquer que la structure pour laquelle on travaille est peut-être pas celle qu'on croit. Et donc il nous demande d'aller découvrir la vérité et d'aller récupérer les âmes de boss. Et ce qui est assez drôle, donc, c'est que donc, dans chaque niveau, je vous ai dit, il y a une patte un peu particulière qui correspond un peu au boss. Et le principe du jeu, c'est qu'on arrive dans le niveau. Il y a un personnage un personnage non jouable en fait, qui nous sert de guide en quelque sorte dans le niveau. On va avoir une première rencontre avec le boss du niveau qui va s'enfuir et nous mettre des bâtons dans les roues. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en fait, pour avancer, en fait, il va falloir débloquer des pouvoirs, un peu comme dans un Metroidvania. D'accord. Ou comme dans Dark Souls, en fait, où on va essayer de, en battant un boss, débloquer un pouvoir et réussir à retourner dans le hub central et trouver le bon chemin pour trouver le bon boss. Donc, il y a des phases de plateforme, il y a des phases de puzzle. Des puzzles, en plus, un peu retors parce que... Donc, je vous ai dit, c'est de la 3D, un peu de la 3D isométrique. Et en fait, on peut tourner à des moments, on peut tourner le niveau comme s'il était sur un pivot.
Ouais.
Et faire tourner le niveau pour découvrir de nouveaux chemins et résoudre une énigme. Un peu comme dans le jeu Captain Toad, sur Switch, en fait.
Ouais,
où dans Captain Toad,
on est
dans
des niveaux... Tu peux pas passer. Et puis, ouais. En fait, quand tu tournes le niveau, tu te rends compte que si, il y a un escalier. C'est juste que dans la vue dans laquelle tu te trouvais, tu ne pouvais pas voir l'escalier.
Exactement.
Et qu'il faut forcément...
C'est des niveaux cubiques.
C'est ça.
Et on tourne les faces du cube.
T'as la perspective qui change.
Ouais, exactement. Et donc, ça permet de voir... Eh ben, il se passe la même chose dans le jeu. Il y a des moments, en fait, où... Tu peux interagir avec le niveau et là tu découvres soit un autre chemin, soit une sorte d'indice, soit un objet et c'est trop bien. En fait, c'est trop bien. Je trouve que le jeu est vraiment malin. Il te pousse un peu à réfléchir, il te pousse à chercher les 100% aussi, un peu comme ce dont tu parlais tout à l'heure. Essayer d'être un bon, parce que moi je suis un complétiste de ouf et c'est vrai que j'y vais aller non mais Moi, ça dépend des jeux, tu dis, toi?
Moi,
je suis complétiste, en fait. C'est ça, mon problème, c'est que je vais passer un jeu qui doit se finir en 10 heures ou 15 heures, en fait. Je vais passer 30 heures. Je vais passer le double juste parce que je veux aller dans chaque recoin, de chaque pixel du jeu. Et c'est ce qui me passionne, en fait. Et donc là, ouais, il y a plein de petits secrets, plein de petits recoins, en fait, à trouver. Et un baissière foisonnant, donc je vous disais, c'est hyper coloré, avec des mouvements qui leur sont propres et qui, du coup, te poussent à essayer de trouver la meilleure arme, parce qu'il y a donc il y a une armurerie, un choix d'armes différent en fonction de ce que tu trouves, des mouvements aussi, des nouveaux mouvements, des nouveaux pouvoirs, en fait. Donc des pouvoirs de jet, en général, à distance. Et c'est vraiment trop trop classe, en fait. Le jeu est très très classe, très très beau. Et puis donc il y a ce hub central, les niveaux, et puis il y a aussi en fait le niveau administratif là,
ouais.
dans lequel on retourne après avoir battu un boss pour faire monter ses stats, différentes stats de personnages en fait. Et en fonction de ça, on a plus de puissance, on a plus de rapidité, notre roulade se fait plus rapidement par exemple, on peut faire plus de roulades aussi, voilà. Donc c'est vraiment un super jeu qui pour moi, je vous l'ai dit, il me semblait mineur en fait, et finalement non, c'est vraiment quelque chose de super bien travaillé. D'ailleurs, j'ai découvert que Acid Nerve avait fait un jeu aussi auquel j'avais joué il y a très longtemps, qui était trop trop cool et qui était aussi très inspiré de Zelda. C'est un jeu qui s'appelle de Zelda et de Shadow of Colossus dont on a parlé, qui était un jeu de un boss rush en fait, puisqu'on affrontait que des boss. C'est Titan Souls qu'on a aussi
ah
à la médiathèque,
okay.
mais qu'on n'a pas en physique, qu'on a quand dématérialisé.
Ouais.
Et Titan Souls, qui était un jeu en pixel art, qui rappelait les Zelda, le premier Zelda, en fait, où on incarne un petit personnage qui tire à l'arc aussi, qui fait des roulades aussi, et qui affronte des boss dans des sanctuaires, en fait. Et le but du jeu, c'est de trouver le point faible du boss et de le dégommer avec les flèches qu'on a. Surtout qu'il y avait une mécanique de flèche, la flèche, en fait, unique. Donc on la lance, et puis après il faut la rappeler pour qu'elle revienne, qu'elle revienne vers toi. Donc Acid Nerve a fait ce jeu, que j'avais adoré, et donc Death's Door est l'héritier de jeu, sauf qu'on est sur du volume, de la 3D, super, vraiment, vraiment, vraiment super jeu, super découverte. Il y a un truc qui m'a marqué dans ce jeu, en plus du design des personnages,
ouais,
qui sont vraiment magnifiques, très drôles, très marqués. Il y a des choses qui peuvent rappeler un peu des fois Miyazaki et l'animation japonaise. Moi, ce qui m'a marqué le plus, en fait, dans ce jeu, c'est la musique.
Ok.
Le niveau d'épicness de la musique, ben, c'est genre incroyable. Et donc, la musique, elle est faite par un des deux gars du studio qui s'appelle David Fenn. Je regarde mes notes. La musique est vraiment, elle est marquante. Moi, j'ai des thèmes là qui me viennent en tête, qui sont, qui te donnent la pêche en fait, qui te montrent aussi le niveau de danger du boss que tu vas affronter, ou même la thématique du niveau que tu vas traverser, quoi. Donc, je dirais que, pour conclure, un jeu qui est pas forcément hyper difficile, franchement accessible. Par contre, on va mourir beaucoup.
Ouais.
Mais on va mourir beaucoup. C'est encore un point commun avec Dark Souls, mais ça reste quand même accessible à qui souhaite persévérer. Et franchement, c'est un super jeu, qui m'a, je vous dis, accompagné pendant tout l'été là. Et c'est genre le jeu idéal en version portable. Enfin, trop bien, trop bien. Que ce soit sur Switch ou sur Steam Deck, et puis à la maison aussi, quoi. Enfin, ça passe super, les mécaniques sont chouettes, le gameplay est chouette, ça se joue super bien à la manette. Donc, je vous invite moi fortement à y jouer. C'est un jeu qui se finit en une petite quinzaine, vingtaine d'heures, si on est vraiment complétiste, un peu plus. Et voilà.
Mais un peu comme toi, ce jeu, moi, il est passé sous mes radars à chaque fois que je le vois. Et je me dis, ah, peut-être que... Et puis, on a tellement de jeux dispo que je le remets toujours à plus tard. Mais
franchement, vas-y, parce qu'il est trop bien.
Je pense que oui, typiquement, ça pourrait être le genre de jeu qui me plairait beaucoup.
Ouais.
Il faudrait que je me trouve 10-15 heures pour le faire.
Ouais.
Comme il faudrait que je trouve 10-15 heures pour beaucoup d'autres jeux.
Ouais, c'est notre problème. On a cette chance d'avoir la difficulté de ne pas trouver le temps de jouer.
On a trop de consoles, on a trop de jeux.
Et c'est ça. Donc venez en emprunter chez nous, ce serait
cool. Ça nous viderait un peu les étagères, qui sont, cela dit, plutôt vides, hein, ça va.
Alors du côté Switch, il n'y a rien à dire, c'est clair. Vous êtes absolument friands de notre fonds et de notre proposition. Et on vous remercie de ça, parce que c'est vraiment appréciable. Mais c'est aussi parce que la sélection est bonne, je pense.
Mais parce qu'on est doués.
Non, ouais, parce que Marie est douée.
Non, j'ai pas m'attiré les lauriers qu'à moi tout seul. J'ai un peu un côté fier à chaque fois qu'on me dit t'as 20 sous pour la Switch. Je suis bah oui, évidemment, j'ai 20 sous pour la Switch, voyons. Mais je ne suis pas la seule à sélectionner.
C'est clair. Non, c'est clair. Mais en tout cas.
C'est un travail d'équipe.
Ouais. Donc, Death's Door, je trouve très proche, parce que très proche aussi du coup de The Pathless.
Ouais, ok.
Dans le sens où personnage avec un arc, les boss.
Par niveau.
Les boss par niveau, mais surtout résolution d'énigmes.
Ouais.
Et puis ce côté arène aussi, où. Parce que là, il y a des. Ouais, dans Death's Door, il y a des arènes où le sol se dérobe sous vos pas. Il faut trouver le bon moyen de passer d'une dalle à une autre pour pas tomber. Et en même temps, il faut affronter le boss. Enfin, c'est trop... c'est tricky, c'est assez tricky, mais bon, ça reste faisable et agréable. Donc, voilà.
Ok, bah merci pour cette présentation de jeu.
Yep.
Je pense que nous n'avons plus rien à ajouter sur nos deux jeux, à part que, encore une fois, ils sont disponibles tous les deux à la médiathèque à Chevilly-Larue.
Yes.
Death Door sur Switch pour l'emprunter.
Ouais.
Et The Passless sur PS5, du coup. Parce qu'on a quand même quelques emprunteurs de PS5 aussi.
Ouais.
Vous êtes quelques-uns à avoir réussi à avoir une PS5.
Ouais.
Du coup, on espère vous voir bientôt pour emprunter de nouveaux jeux ou juste pour discuter avec nous.
Ouais.
Que l'épisode vous a plu. Je vous promets pas un épisode pour décembre parce que je vais pas m'avancer. Je ne sais pas de quoi demain sera fait.
Ah, en ce moment, c'est dur.
En ce moment, ces 6 derniers mois, c'est chaud quand même.
Ouais, ouais.
Là, depuis 6 mois, pour qu'on soit tous les trois dans le bureau, c'est complexe. Hein.
Mais on va revenir encore plus fort.
Ouais, on va revenir encore plus fort. J'attends de me casser une jambe, peut-être.
Non, jamais.
Je sais pas, c'est jamais 203, tu vois. Chacun a son truc qui fait qu'on peut pas être disponible.
Non, Marie, non.
Non, j'ai pas le droit, d'accord, j'ai pas le droit.
Non.
Bon, vous l'avez entendu ici, je n'ai pas le droit de me blesser, d'être malade.
Tu as le droit d'être en bonne santé.
J'ai le droit d'être en bonne santé, super. Bref, sur ce, on espère se retrouver très bientôt pour le 17e épisode. Merci,
yep.
Franck.
Merci à toi, Marie.
Et puis, à bientôt.
Yes. À plus.
Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et si vous avez testé le jeu. À bientôt pour un autre épisode de Point de Sauvegarde. Et surtout, n'oubliez pas de sauvegarder.